Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59 sur RMC, RMC Story. Charlène Villemer, le temps aujourd'hui.
Une France encore coupée en deux entre l'ouest et l'est avec des orages sur toute la moitié ouest, particulièrement fort dans le sud-ouest cet après-midi. Si vous habitez en Bretagne après la pluie cette nuit, c'est très nuageux ce matin. Les averses orageuses, elles vont se décaler vers l'Occitanie et puis on aura aussi des orages sur les Hautes-Alpes et puis la Savoie. Le soleil, lui, il sera présent cet après-midi dans le nord-est et puis on a ce vent aussi qui traverse le pays et qui accentue cette sensation de fraîcheur. Côté mercure, c'est toujours doux. On a en moyenne entre 10 et 15 degrés ce matin, 7 degrés un peu plus frais dans le nord-est. Au niveau des températures cet après-midi, il fera 20 à Paris, on aura 25 à Lyon, 20 du côté de Biarritz également, 22 pour Perpignan, 24 à Marseille et 23 à Dijon. Demain, attention, on aura encore des orages sur la moitié ouest et puis un coup de tonnerre est à prévoir également dans la région parisienne en fin de journée.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Soyez toutes et tous les bienvenus sur RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Tous les indicateurs, vous allez voir, sont dans le rouge. Ce matin, les prix du pétrole s'envolent à des niveaux historiques. La photo au blocage du détroit d'Ormuz qui pourrait bien durer encore plusieurs mois. Pendant ce temps, la croissance nulle en France. 0% au premier trimestre. On a les chiffres ce matin. Et vous allez voir que les Français utilisent de moins en moins la voiture. Dans ce contexte géopolitique, la France se prépare à la guerre. Gigantesque simulation de combat avec 12 500 soldats qui s'achèvent aujourd'hui dans l'est du pays. Et il n'y en a pas que pour le PSG. En football, ce soir, c'est Strasbourg qui jouera à Madrid sa demi-finale européenne. C'est en Conference League.
On assiste depuis hier soir à une envolée des prix du pétrole.
Oui, alors c'est simple, on s'est couché hier soir. Le baril était à 118 $. On se réveille ce matin, il est monté à 126 $. C'est le cours du Brent qu'on suit, nous, en Europe. Romain Houck pour RMC en direct ce matin. On est à des niveaux, faut le dire, historiquement hauts.
Oui, c'est du jamais vu depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 4 ans. Et il faut s'attendre à en voir les conséquences chez nous, à la pompe, dans les jours à venir. Les experts s'accordent à dire qu'en moyenne, plus 1 $ sur le prix du baril. C'est plus 1 centime sur le prix de l'essence.
Comment ça s'explique?
Eh bien, le plus probable, c'est que les marchés soient en train de réagir négativement à l'option que semblent choisir les États-Unis dans la guerre en Iran. Hier, la Maison-Blanche tenait une réunion entre l'administration Trump et les dirigeants du secteur pétrolier américain. Réunion lors de laquelle le président américain a directement abordé l'hypothèse d'une prolongation de plusieurs mois du blocus dans le détroit d'Ormuz. C'est un peu plus efficace que les bombardements, assure lui-même le président américain, qui, ce matin, sur son réseau social, accentue encore la pression. Donald Trump recommande aux Iraniens de se montrer, je cite, intelligents et vite en concluant un accord sur le nucléaire. Un conflit qui s'enlise et des cours du pétrole qui s'envolent. Pour sortir de l'impasse, les Américains vont-ils de nouveau frapper l'Iran? Donald Trump doit être briefé aujourd'hui sur de possibles nouvelles opérations militaires.
Et alors, plusieurs conséquences à tout ça. La croissance est à l'arrêt en France. Elle est à 0% au premier trimestre de l'année, alors que l'INSEE, qui dévoile le chiffre là ce matin, avait fait une prévision à 0,2%. C'est donc moins bien que prévu, avec en plus une consommation des ménages qui est dans le rouge à moins 0,6% pour le premier trimestre. Et on fait aussi le constat, eh bien, que les Français prennent moins la voiture avec la flambée des prix à la pompe. Les ventes de carburant sont en baisse ces derniers jours. Selon les chiffres du comité professionnel du pétrole que RMC a pu consulter, on est autour de moins 15% pour le sans-plomb, moins 19% pour le gazole quand on compare sur un an. Et alors, c'est très simple à comprendre. Pas une personne interrogée par notre correspondant Pierre Borges à Bordeaux n'a pas changé ses habitudes.
Cela faisait longtemps que ces automobilistes n'étaient pas venus dans une station essence.
C'est trop cher. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de faire un plein d'essence à plus de 100 euros.
L'objectif, venir ici le moins possible, donc limiter sa consommation.
Je me limite totalement. Comme là, je devais être en vacances, ben, j'ai pas été. Je suis resté près de la maison. Je fais des petits allers-retours. Voilà.
Je rentre un petit peu moins voir ma famille. Je rentre une fois par mois au lieu de rentrer deux fois par mois. J'économise, ouais, 300 km. C'est triste d'en arriver là.
À 2,20 € le litre de gasoil en moyenne, Charlotte a trouvé une alternative pour aller au travail.
Je prends davantage les transports en commun. J'en ai pour 1h15 en transport, alors qu'en voiture, j'en ai pour 40 minutes. Il n'y a pas le choix.
Pour Maëlle, c'est le covoiturage pour aller au sport avec ses amis.
On essaie d'être dans la même voiture. Ouais. Avant, chacun prenait sa voiture ou se débrouillait. Maintenant, on essaie d'aller chercher, même si ça rajoute un petit peu de trajet.
D'autres ne peuvent pas se passer de leur voiture, mais la plupart expliquent rouler moins vite, voire changent de trajet, comme Anne.
Ma mère qui habite à Bidart, je prends plus l'autoroute terminée, je passe par les petites routes. Je mets beaucoup de temps, mais beaucoup moins d'argent.
Sur certaines autoroutes, le trafic a baissé d'environ 1% au premier trimestre 2026.
Et donc il y a deux questions hein. Ce matin, au-delà de ce baril qui bat des records, moi j'achète pas des barils, moi j'ai le plein en litres plutôt. Est-ce que vous avez réduit votre consommation? Est-ce que vous avez réduit vos habitudes, changé vos habitudes, moins loin, moins vite comme on le dit? Et puis il y a cet autre débat, est-ce qu'il faut taxer les super profits des pétroliers? Vous êtes pour, vous êtes contre, vous débattez sur RMC au 32-16.
Et alors c'est dans ce contexte de tension internationale qu'Emmanuel Macron va enfiler, comme on dit, son costume de chef de guerre aujourd'hui, en supervisant la toute dernière journée de l'opération Orion, qui a été lancé en début d'année. C'est en fait un gigantesque entraînement militaire dans les conditions du réel. Il est inédit par son ampleur depuis la guerre froide. C'est littéralement la France qui se prépare à la guerre, là, en ce moment, avec des simulations de combat dans l'Aube et dans la Marne. Il y a 12 500 soldats qui simulent la guerre, en fait, avec 1800 véhicules même armés, 800 drones, 30 hélicoptères. Emmanuel Macron sera d'ailleurs à bord d'un de ces appareils aujourd'hui, hein, Cyprien Pézeril.
Emmanuel Macron à bord d'un hélicoptère Caïman pour assister à un raid aérien, pour survoler aussi des tranchées, 800 drones dernière génération en action autour de lui, avant que le président ne descende dans le poste de commandement installé au plus près du front. Un scénario de guerre crédible, plus vrai que nature, mais complètement fictif. Une bombe d'entraînement sera aussi larguée, exercice d'ampleur à l'heure de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. Et un chef de l'État décidé une fois de plus à se montrer dans son costume de chef des armées, pour au passage vanter son bilan. Le budget de la défense en hausse constante, 36 milliards de plus jusqu'en 2030. Dans la dernière loi de programmation militaire réactualisée, son examen débutera d'ailleurs lundi à l'Assemblée nationale.
Alors ça aussi, c'est une opération inédite à Paris, où la gare de Lyon sera totalement fermée à partir de ce soir et jusqu'à dimanche midi. Plus aucun train pendant 3 jours dans cette gare, qui est une des plus grandes de France, qui dessert tout le sud d'ailleurs du pays. Les trains seront détournés vers d'autres gares. La SNCF profite en fait du week-end du 1er mai pour faire de gros travaux de modernisation, Victor Girard.
Oui, car les deux postes d'aiguillage de la gare qui orientent les trains sur les voies sont vieillissants. Ils datent des années 80. L'objectif des travaux, c'est donc de les remplacer par un système entièrement automatisé, piloté depuis une tour de contrôle dans l'Essonne.
C'est un peu comme si vous passiez du Minitel à l'iPhone Pro que vous avez dans votre poche.
Compare Séverine Lepère, la directrice de SNCF Réseau Île-de-France. Le chantier s'annonce intense. Tout doit être bouclé en moins de 3 jours dans l'une des gares les plus fréquentées de Paris.
On va, pendant ce week-end, avoir plus de 500 personnes qui, pendant 60 heures, minute par minute, vont brancher 15 000 objets ferroviaires sur un futur poste d'aiguillage.
Et à la clé des bénéfices concrets pour les voyageurs, promet Amandine Granier, elle est directrice adjointe de l'entité responsable des travaux.
Une amélioration de la réactivité, une amélioration de la régularité, une meilleure gestion et une fluidité du trafic.
Cette modernisation ne profitera pas qu'au TGV. À l'horizon 2031, elle doit aussi permettre de faire circuler davantage de trains sur les lignes RER B et D du réseau francilien entre Châtelet et Gare du Nord.
Alors les joueurs de Strasbourg, eux, sont bien arrivés à Madrid où ils vont disputer la toute première demi-finale européenne de leur histoire. Ce soir sera 21h en Conference League contre un club madrilène. Alors c'est pas le plus connu, c'est pas le Real, c'est pas l'Atlético, c'est le Rayo Vallecano. Pas la même ambiance hein, dans un stade vraiment au pied des tours, hein, Sébastien Ruffet.
Pas de stade flambant neuf pour cette première demi-finale européenne du Racing. Des câbles qui pendent, des sièges délavés, mais une ambiance qui rappelle l'Argentine ou le Paraguay de Rolio Enciso.
L'ambiance, ça va être un peu sud-américain. Là-bas, on regarde beaucoup la Liga et Vallecano est l'équipe qui ressemble le plus à notre football.
Entre le populaire Rayo et le nouveau riche Racing, tout le monde s'attend à des duels à fort impact, notamment à cause des dimensions du terrain, l'un des plus petits d'Europe, comme l'a noté le coach Gary O'Neill.
Vallecano a de super résultats à domicile. Je pense que c'est le plus petit terrain d'Europe. Il est unique, il est différent. On a quelque chose d'un peu similaire en première ligue avec Luton et ils étaient vraiment bons à domicile avec leur tout petit terrain. Mais quand ils étaient à l'extérieur, sur de plus grands terrains, ce n'était pas facile pour eux.
Si la métaphore guerrière est parfois de trop dans le monde du sport, les Strasbourgeois savent que pour aller en finale de cette Conference League à Leipzig et écrire une nouvelle page du football français, ce sont bien deux batailles qu'il va falloir remporter.
Et alors Madrid qui est vraiment le cœur du réacteur en ce moment puisque c'est là-bas que l'Atlético et Arsenal ont fait match nul un partout hier soir, 2 buts sur pénalty dans la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Le match retour est prévu mardi prochain à la veille du choc de Paris à Munich.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Merci beaucoup Quentin Vinet. C'était le journal de 8h sur RMC et RMC Story. Vous savez quoi? On arrête de parler gasoil et sans plomb un peu. On passe au kérosène.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Pierre Rondeau.
Bonjour Mathieu.
Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances cet été? Il y a de plus en plus de compagnies aériennes qui annoncent des annulations de vols.
Oui, hein, Mathieu, c'est une véritable inquiétude qui se trame. Depuis le début du conflit en Iran, le coût du kérosène a augmenté de plus de 20% pour les compagnies aériennes. Le pétrole passant par l'étroit d'Hormuz est bloqué. Les aéroports sont obligés, s'ils le peuvent, d'importer du pétrole plus cher ailleurs pour compenser. Et sinon, si ça coûte trop cher, les vols peuvent tout simplement être annulés.
Mais qui est concerné ?
Alors pour l'instant, il s'agit des compagnies low cost qui ont une faible marge par billet vendu et qui subissent le plus la hausse du kérosène. Comme l'avait annoncé RMC en début de semaine, Transavia a annulé 2% de ses vols entre mai et juin. La compagnie canadienne Air Transat a abaissé de 6% ses vols sur la même période. Ou encore le groupe allemand Lufthansa avec 20 000 vols supprimés d'ici la fin octobre. Pour Dan Jorgensen, le commissaire européen à l'énergie, il est probable que les vacances de beaucoup de gens seront touchées soit par des annulations de vols, soit par des prix des billets très, très élevés.
Ouais, c'est inquiétant. D'abord les locaux, vous citez même la Lufthansa. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre ? Que peut-il se passer ?
Alors, pour faire face à cette situation, le gouvernement a annoncé l'organisation d'une réunion avec les compagnies aériennes la semaine prochaine, le 6 mai prochain. Interrogé, le ministre de l'économie, Roland Lescure, précise qu'il s'agira d'évoquer les volumes, les prix, les politiques d'annulation et la protection des consommateurs. Selon lui, pour l'instant, pas de risque de pénurie. Il y a des stocks stratégiques, 2 millions de barils de kérosène. Côté aéroport, le groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens Orly et Roissy, semble mieux loti que les autres, avec un accès direct aux raffineries du Havre. À l'inverse, des aéroports plus petits, plus éloignés des terminaux pétroliers, risquent eux de connaître plus de difficultés. Alors oui, grande question Mathieu, pourrons-nous prendre l'avion cet été ?
On va suivre de très près. En attendant, je peux vous donner un tout petit conseil. L'application RMC, le podcast de la solution conso, Charlène Villemer ce matin vous expliquait annulation de vol en cas de problème avec le kérosène, quels sont nos droits. Vous vous abonnez à ce podcast qui est extrêmement utile. On passe à l'addition.
Et oui, l'addition, mais bien ça augmente.
Ah mais c'est mignon parce que moi j'ai une version écrite la veille au soir. C'est déjà périmé pour le baril.
C'est périmé. Alors pour le samplon 95, ça augmente très légèrement, mais ça va très certainement beaucoup augmenter dans les prochains jours. 1,99€ hier, 2,07€ aujourd'hui. Le gazole, 2,19€ hier, 2,20€ aujourd'hui. Et là, on en a parlé. Le baril de pétrole, pour s'en rendre compte, on était à $105 lundi. On est à 126 ce matin, ce qui est énorme. Le gaz aussi augmente, 43€ hier, 45,94€ aujourd'hui.
On est monté à 126 cette nuit et vous aviez écrit 117 hier soir. Ça va tellement vite. C'est impressionnant. Merci Pierre Rondeau. C'était la chronique Écho, à retrouver en podcast elle aussi. Il est 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, dans un instant, Arnaud de Manche, et puis à 8h30, le face-à-face avec Alain Bauer. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h14 sur RMC et RMC Story. Et il est là, c'est Arnaud Demange.
Oh oui, et il est là, Mathieu, plein d'enthousiasme.
Bonjour.
Bonjour à vous, les amis. Je suis comme un dingue ce matin. Vous n'êtes pas excités, vous ?
Si, toujours.
Par la nouvelle, Bernard Cazeneuve, qui se dit prêt à être candidat à la présidentielle 2027. Écoutez cette foule enthousiaste, il est prêt, et ouais. Pour tout vous dire, Victor, Mathieu et moi-même, on a envie de nous raser juste le dessus du crâne.
Pour ça va arriver bien assez tôt.
Pour ressembler à l'homme que la France attend, Élise Dangean, elle m'a dit dans les couloirs, bah, tu vois, Bernard Cazeneuve... C'est quand il veut, quoi. Charlène, c'est pareil, c'est elle s'est fait un tatouage. Bernard, my love. Bernard Cazeneuve, torse nu, deux mitraillettes en or, sur un char romain tiré par des cygnes. Comme me disait Jérémy Star, Bernard Cazeneuve, je le ferai pas dormir dans la baignoire. Quand même, quoi. Bernard Cazeneuve. Hein?
Ouais.
Bernard Cazeneuve! Bernard Cazeneuve! Allez, et un! Et deux, et trois, pour cent. Si t'aimes bien Bernard Cazeneuve, tape dans tes mains. Et vous le faites pas. Il y a que Mathieu qui l'a fait.
Vous,
peut-être que parce que vous ne savez pas qui est Bernard Cazeneuve. Vous avez moins de 73 ans. Lui, il savait pas qui était Buffy.
Oh, hein.
Victor, il savait pas qui était Buffy.
Ouais, il est plus vieux que Sarah-Michel Gellar.
C'est l'ancien Premier ministre de François Hollande. Un gars, mais regardez, très fun. Alain Juppé à côté de lui, c'est David Guetta. Et donc il se dit prêt pour 2027. Eh ben c'est très gentil monsieur, mais on va réfléchir. Parce que
la foule enthousiaste que vous avez entendue en début de chronique, en fait, c'était un bruitage. La vérité, c'est qu'on sent pas une grosse attente autour de Bernard Cazeneuve. Alors, son parti s'appelle la Convention. Ouais. Vu l'état de la gauche, ça aurait plutôt dû s'appeler la Convention obsèque. C'est un peu... On dirait un huissier de justice qui essaye de faire le mec cool à la soirée des ados. Yo! Bonsoir les Jones. Elle est méga cool votre surboom. Yo, signe de Jules. Allez, venez à la convention, il y a des panachés gratuits. Et il a été maire de Cherbourg pendant plus de 15 ans. Et je vais faire de la France ce que j'ai fait à Cherbourg. Eh ben, merci pour cette vision. Ah, ce moment Cazeneuve. Moi, j'ai tellement hâte d'un beau moment Cazeneuve.
Alors, on en sait...
Un moment Cazeneuve. Oui, l'instant Cazeneuve.
On en sait un peu plus sur l'état de santé de l'ayatollah Mojtaba Khamenei.
Oui, alors selon le New York Times, il attend une prothèse de la jambe. Il a perdu une main. Son visage et ses lèvres ont été gravement brûlés et il peut à peine parler. Là, même Philippe Croizon a mal pour lui. Même lui, il va pas faire « Ah, c'est chaud, là !» Plus de jambes, plus de mains, plus de lèvres. C'est plus un guide suprême, en fait, c'est Monsieur Patate. On va lui mettre des trucs. Hop, hop, hop. On rigole, hein, mais les médecins iraniens, ils sont bons. Ils vont faire comme dans les films américains, ils vont lui mettre des bras de robot, des jambes avec un lance-missile intégré, des yeux laser. Ça va être le Mollah qui valait 3 milliards. Thermolator. Les Américains, ils vont galérer pour le buter, celui-là. Hein. Va falloir envoyer les Expendables et Bruce Willis.
Salut
l'équipe,
c'est Bruce Willis.
Oh, un Mollah robot. Il y a qu'à le faire bugger en lui lisant des trucs féministes. Je vais lui réciter du Simone de Beauvoir. Allez, on ne naît pas femme, on le devient. Et maintenant, du Mona Cholet. Allez, faites venir Alice Coffin et Virginie Despentes. Yippie-kaï, pauvre con. Ça se sent que pour faire des vannes sur la guerre en Iran, je suis obligé d'être un peu acrobate, là, parce qu'on racle hein, les ponts de tir.
Ça ne se sent pas.
Mais alors, c'est très gentil.
Très belle facture.
Très gentil à vous, mais sachez que je ne suis pas tout seul à galérer. Sur BFM, ils ont fait un sujet sur la pénurie de goudron. On en est là, quoi, la pénurie de goudron. Comment on va faire sans goudron? Eh ben, on pourra racler un peu les poumons de Michel Houellebecq.
Oh,
mais
non.
Ça va nous faire quoi? 3 km d'autoroute en plus, c'est quand même pas terrible, on va pas aller loin.
Le biopic sur Michael Jackson qui cartonne en salle.
Oui, malgré une polémique, hein, le film n'évoque pas les dossiers à problème de Michael. C'est-à-dire que le réalisateur, tu lui demandes un biopic d'Émile Louis, eh ben c'est l'histoire d'un chauffeur de bus sans histoire dans la campagne française. Enfin sinon le film est assez cool, les biopics de toute façon c'est toujours cool. Faut juste pas les voir en VF.
Non.
Je suis mauvais. Oui, je suis mauvais. Ça rend moins bien. Tiens Mathieu, les Allez. Amis, un petit jeu, je vous fais une VF nulle. Vous me dites de qui ça pourrait être le biopic.
Wow. Attention, wow, ça devient technique les jeux de
On va vous caillou.
We will rock you.
C'est Queen. Queen.
Okay. Ah oui, d'accord. Mais
c'est pas vraiment la traduction.
Non, c'est pas
okay,
la reine.
Ouais, d'accord.
Vous c'est la reine de la danse sans le rite.
Dancing
oui,
Queen,
bien
oui.
Vu, bien vu. Je vais te dire ce que je veux vraiment, vraiment. Dis-moi ce que tu veux vraiment, vraiment. Autour du monde, autour du
Punk.
Monde. Bien vu. J'aime la bouger, la bouger. J'aime la bouger.
Reel to reel.
Oui, reel to reel. On termine en beauté. Bravo, Mathieu.
J'étais surpris sur le Reel to Reel. J'avais le CD de titre à l'époque.
Bien vu.
Merci beaucoup, Arnaud de Manche. Arnaud, qu'on retrouve tous les jours et en podcast quand on veut absolument. En tournée à Épinal, oui. Gaillac, Nice, Lille, Genève. J'allais dire Geneviève.
Non, pas Geneviève. On
Genève.
Peut en tourner dans Geneviève. Ce sera Genève.
Le Garric, Creutzwald, Toulouse ou Rennes, un spectacle RMC.
Mais on embrasse les Genevièves.
Toutes les Genevièves. Merci, Arnaud de Manche. Dominique est en ligne avec nous en Ardèche ce matin. Bonjour, Dominique.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Alors, vous avez réagi ce matin à cette vidéo polémique, mon cher Dominique, où on voit un coach de MMA, donc ce sport qui combine plusieurs arts martiaux, qui met des coups dans le torse de gamins d'une dizaine d'années. On les voit bondir plusieurs mètres en arrière. Ça vous a choqué? On avait notre consultant MMA qui expliquait que c'est pas dans les règles de ce qu'on fait pour la formation des enfants.
Bah écoutez, j'ai été entraîneur sportif jusqu'à même maintenant, je suis encore, je fais beaucoup de sport. J'ai joué au foot jusqu'à 51 ans et l'objectif principal d'un éducateur sportif, c'est d'empêcher la violence à tout niveau. Et là, les images que j'ai vues ce matin, ça m'a choqué profondément. Ouais. J'ai des petits enfants. Et voir ce mec-là mettre carrément un coup de savate dans le torse des gamins, les faire reculer de plusieurs mètres, mais c'est juste épouvantable. Je comprends même pas que ça puisse exister en France, quoi.
Je le précise, Dominique, quand même, parce qu'on a aussi beaucoup d'auditeurs qui vont réagir. Ça n'est pas ce qui se passe normalement dans un cours de MMA pour des enfants. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a pas le droit normalement à ce genre de contact, à ce genre de coup, etc., etc. On avait le consultant MMA d'RMC Sport, Baba Diagne, qui était en ligne avec nous tout à l'heure à 7h10. Mais merci Dominique, votre indignation, je crois qu'elle est partagée hein, par de nombreux auditeurs, de nombreux téléspectateurs qui ont peut-être vu la vidéo. Vous continuez à réagir sur ce sujet, évidemment, si vous le souhaitez, au 32-16. Il est 7h21. Très bon réveil à tous avec RMC et RMC Story. 8h21, ouais. Je serais bien resté une heure de plus. Mais il est 8h21 et dans un instant, c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV. Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur émérite de criminologie, fondateur du pôle sécurité, défense et renseignement, auteur de nombreux ouvrages, dont l'un des derniers, Trump, le pouvoir des mots. Je le montre à ceux qui nous regardent. On en a besoin de vous ce matin pour comprendre ce qu'il se passe dans la tête du président américain. Trump, je le disais, qui menace d'un blocus long dans le détroit d'Ormuz. Conséquence ce matin, les prix du baril du pétrole qui sont vol comme jamais. Aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent ce matin, je sais que vous ne lisez pas dans une boule de cristal, mais votre sentiment, cette crise, cette envolée, va-t-elle, peut-elle durer encore très longtemps ?
Alors d'abord, je crois qu'il faut dire la vérité aux gens et cesser de penser que ne pas leur dire éviterait de les inquiéter. Ils sont lucides, ils voient très bien ce qu'ils payent, comment ça se passe, ils regardent les journaux, ils vous regardent, ils vous écoutent, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont très au courant, très informés, parfois manipulés, mais la base de ce qu'ils apprennent au quotidien les indique à être lucides, donc à considérer que cette crise est là, qu'elle va amener probablement des éléments de pénurie, mais que paradoxalement, ceux qui savent gérer ce genre de choses, Patrick Pouyanné notamment, il y avait Michel-Édouard Leclerc il y a quelques minutes sur BFM Business, je crois,
absolument,
sont parfaitement préparés à anticiper en partie, réduire l'ampleur des chocs, et puis il y a toujours des alternatives.
Donc vous parlez de Patrick Pouyanné à dessein, parce que il y a quelques jours, on le rappelle, hein, il a dit que effectivement, si la situation devait perdurer 2-3 mois, on entrerait dans une ère de pénurie énergétique.
Oui, c'était honnête et lucide, préventif.
Pensé par le gouvernement, mais néanmoins lucide, mais là aussi, de votre point de vue.
Je pense qu'il serait utile que la communication gouvernementale essaye d'éviter de nous refaire le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, ou le masque du Covid qui ne sert à rien, ou que ce n'était qu'une petite grippette. Voilà, à un moment, il va falloir révolutionner la communication politique pour entrer dans le principe de réalité, c'est-à-dire dire la vérité, et ensuite expliquer comment on la gère. Ça passe beaucoup mieux que de mentir, éluder, enfumer. Voilà.
On va venir sur la communication politique de Donald Trump, précisément, ses déclarations donc sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. D'abord, cette information de la nuit, un coup de fil entre le président américain et Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Ça n'était pas arrivé depuis 2 mois, en tout cas à la connaissance du public. Selon le Kremlin, ça a été franc, très cordial. Poutine, qui a mis en garde Trump contre les conséquences dommageables, je cite le Kremlin, qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran. Ça va être le nouveau médiateur, Vladimir Poutine.
Alors d'abord, il n'est pas nouveau. Il l'est depuis le début. Je rappelle que ce sont les Russes qui gèrent la seule centrale nucléaire en activité qui était en activité iranienne à Bouchehr. Il y avait plus de 300 ingénieurs russes durant cette période. C'était l'un des hommes de l'accord précédent JCPOA ou accord de Vienne qui prévoyait le transfert éventuel d'une partie de l'uranium iranien à un tiers qui pourrait soit le gérer, soit le diluer, ce qui est très compliqué techniquement. C'est possible, mais c'est complexe. Donc, il a toujours été fait partie de l'équation. Il a toujours été présent dans cette affaire. Et donc, il n'y a rien de véritablement nouveau.
Rien de nouveau, mais à ce moment précis.
Il a fait la même chose au mois de mars. Si vous regardez le communiqué du Kremlin du mois de mars, c'est le même que le communiqué du mois d'avril. À quelques mots près, c'est tout s'est bien passé, on s'est bien parlé, on s'est tombé d'accord pour dire que c'était pas bien de continuer la guerre et que ça serait bien de trouver une solution, et nous sommes disponibles. Il n'y a pas de nouveauté. Et en décembre, on avait eu la version précédente, mais cette fois sur l'Ukraine. Donc, il n'y a pas de nouveauté. La Russie existe, elle n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit. Elle est là, elle essaye de se retrouver un espace politique. Donald Trump l'a d'ailleurs invité dans les prochains sommets internationaux.
Absolument.
Donc, Donald Trump a décidé, pour des raisons qu'on comprendra peut-être un jour, au-delà de la relation personnelle des hommes forts, les brothers, comme il aime le dire,
les hommes forts.
Mais au-delà de ça, il a toujours essayé de déconnecter la Russie de la Chine en disant la Chine est votre principal ennemi. Staline l'avait déjà dit, je vais essayer de vous décrocher de la Chine parce que moi, mon principal ennemi, c'est la Chine et je fais tout ce que je peux pour contingenter la Chine, ce qui veut dire que si Vladimir pouvait revenir dans le bon camp, on pourrait trouver sans doute un bon accord, pas pour les Ukrainiens sans doute, pas plus que pour le peuple iranien, bon accord du point de vue de Donald Trump, dont les seuls intérêts sont les intérêts américains et par ailleurs les siens.
Mais Alain Bauer, néanmoins, vous dites rien de nouveau sous le soleil, mais un Vladimir Poutine qui appelle finalement à retenir la main de Trump, de frapper à nouveau l'Iran. Oui. C'est la traduction, encore une fois, pour les téléspectateurs qui nous regardent, d'un véritable lien, encore une fois, s'il fallait le prouver, entre l'Iran et la Russie aussi.
Bien sûr, la Russie a fourni à l'Iran un certain nombre d'équipements, mais ceux qui fournissent le plus d'équipements sont les Chinois et les Coréens du Nord. La Russie s'est limitée à quelques équipements. Les Chinois ont fourni du perchlorate de sodium qui permet de fabriquer du propergol, ce qui est l'élément le carburant des missiles. La Chine a fourni à l'Iran des éléments anti-aériens, des radars antimissiles et des équipements antimissiles qui n'ont pas été très performants, mais quand même. Il y a d'autres opérateurs particulièrement présents. La quasi-totalité des missiles iraniens d'ancienne génération sont des missiles coréens du Nord, eux-mêmes issus de missiles chinois. Faut pas se leurrer sur la réalité de la confrontation globale qui existe. Je rappelle d'ailleurs très régulièrement que pendant qu'on regarde tout ça, on ne voit pas que les Américains ont récupéré le canal de Panama au nez à la barbe des Chinois, qu'ils viennent de passer un accord militaire pour contrôler le détroit de Malacca. C'est 80% des exportations chinoises. Là, c'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Qu'il y a une reconfiguration mondiale avec une nouvelle géostratégie hémisphérique. Il y a la Chine qui essaye de contrôler son espace, les Américains qui récupèrent le leur.
Donc ça fait partie d'un grand plan, en fait, finalement,
quand on regarde de manière microscopique ce que fait Donald Trump, ça paraît comme totalement incohérent. Quand on le regarde avec un télescope, tout d'un coup, l'alignement des planètes commence à avoir du sens. Et c'est tout le problème qu'on a avec Donald Trump, c'est que à force de provocation, de divagation et de digression, on a l'impression qu'on comprend rien à ce qu'il fait et que tout ça n'a aucun sens. Et puis dès qu'on regarde ce qu'il fait sans le dire, dont ce coup de fil dont il fait communication. Enfin, c'est le Kremlin qui dit
absolument.
Voilà comment ça s'est passé.
Et Donald Trump a embrayé.
Et Donald Trump confirme que tout ça
va.
Tout en disant que non, il a dit à Vladimir Poutine, bon, écoute, pas maintenant, occupe-toi plutôt de l'Ukraine. Et par ailleurs, pendant ce temps-là, il prévoit des frappes limitées. Il a demandé à son état-major.
On va y revenir, en effet.
Des frappes très limitées sur des cibles très limitées pour augmenter la pression. En fait, je disais que Donald Trump, c'est un peu Dr House, comme dans la série télé, vous savez, le médecin qui vous tue 12 fois tout en essayant de vous sauver. Il essaye un peu tout jusqu'à ce qu'il trouve la martingale qui lui permet, parce que c'est un joueur de poker, d'avoir un jeton de plus à la fin de la partie qu'au début. Et là, la martingale du soi-disant blocus, enfin barrage filtrant pour être plus honnête, est un élément qui lui convient parce que pour la première fois, contrairement à ce que tout le monde raconte, les négociations reprennent.
Elles
n'ont jamais cessé.
De votre point de vue, considérez que il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire, on le disait, cette prolongation, sans doute dans le temps très long, du blocus dans le détroit d'Ormuz. Ça, c'est un point, et il a déjà alerté. Et les conséquences, on les connaît. Mais en même temps, vous en parliez, il doit se faire briefer par son état-major sur, en effet, la possibilité de prochaines frappes, sans doute ciblées, en Iran.
Oui.
Comment comprendre, finalement, ce en même temps très trumpien de la séquence? Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, que ces frappes pourraient avoir lieu dans les prochaines heures?
Alors, prochaines heures, je ne crois pas. Prochains jours, peut-être. En fait, le sujet, il est l'analyse que font les Israéliens de la situation de l'Iran.
Parce que tout se fait avec les Israéliens.
Oui,
et en cohérence.
Et notamment leur renseignement.
Le renseignement israélien
dit, en fait, nous avons peut-être été un peu optimistes sur la rapidité d'effondrement, parce que les Américains veulent le désarmement, les Israéliens veulent l'effondrement du régime. Mais en fait, c'est une poutre que nous termitons. Extérieurement, la poutre apparaît comme extrêmement solide, mais ça n'est pas vrai. Elle est en train de s'effondrer par les frappes au-dessus, le sommet, et par les frappes en dessous que vous ne voyez pas, mais que nous réalisons de manière assez régulière. Et ce truc va s'effondrer. La question, c'est il s'effondre beaucoup plus lentement qu'on ne le pensait, parce que les gardiens de la Révolution, il y a 20 ans, ont anticipé cette guerre. préparer. Mmh. Imaginez, il n'y a pas un État iranien, mais 31 États iraniens. 27 centres de production de missiles, de drones, des dizaines ou des centaines de centres de stockage de vedettes moustiques et autres équipements.
Parfaitement efficace.
Parfaitement efficace.
Ça a pu surprendre aussi les États-majors américains.
Ils le savaient. Mais ils l'ont sous-estimé.
Mais quand vous lisez et vous analysez ce que vous faites, le Donald Trump dans le texte, quand il dit « ils sont étranglés » en parlant des Iraniens, comme un cochon farci. Là encore une fois, on est de la communication politique pure et dure. Il s'adresse à son opinion publique, mais la réalité.
Au MAGA de son opinion publique. Parce qu'il y a des tranches. Oui. Ce qui explique la diversité d'expression du Trump. Parce que vous avez le Trump provocateur. Il parle au MAGA. Vous avez le Trump entre deux, il parle aux républicains, pas tous MAGA. Puis vous avez l'autre Trump, celui qu'on découvre après la tentative d'assassinat ou d'attentat au dîner des correspondants, posé, mesuré, zen. Et tout le monde s'est dit, mais qui c'est celui-là?
Zen, et juste parenthèse, qui a possiblement échappé aussi à une tentative d'assassinat.
Mais zen.
Comme si, et depuis samedi dernier, ça n'existe
parce
plus.
Parce qu'il est l'élu.
Il est l'élu.
Parce qu'il a survécu à Butler, la première tentative d'assassinat, vous savez, l'oreille.
Bien sûr. Fight. En plein meeting.
Et donc, il est dans une autre dimension. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a plusieurs Trumps dans le Trump. Ce que j'écris dans mon livre, c'est justement ça, la diversité des Trumps, qu'il faut pas s'arrêter à la vision provocatrice qui crée chez nous de la sidération. Et donc, on s'arrête de penser tellement on est choqué par cet hurluberlu agressif et grossier. Et on ne se rend pas compte qu'il y a l'autre, celui qui voit vos collègues de The Atlantic, qui en fait, du coup, 33 pages de éberlué par la gentillesse de Trump qui lui fait des petits gâteaux, du thé glacé et qui lui téléphone à 6h du matin pour faire visiter ou vos collègues de la Maison Blanche ou vos collègues du New York Times, 4 qui viennent l'interviewer alors qu'il insulte le New York Times à peu près matin, midi et soir et encore j'ai dû en oublier et qui sont
et
là.
Et pas que le New York Times d'ailleurs. Ouais.
Mais ça tombe, voilà.
Tout le monde y passe, oui.
Et qui sont là et avec un accueil charmant, aimable et qui se disent mais qui est cet individu? Où est le vrai Donald Trump? Il y a plusieurs Donald Trump. Mmh. Il s'oriente en fonction. Il a tout appris de la télé-réalité. Il en a fait de la télé-réalité politique. Il en fait de la télé-réalité militaire.
Mais est-ce que vous pensez qu'il
fait... Tout est scripté.
Est-ce que vous pensez qu'il fait aujourd'hui le pari du fait qu'un blocus prolongé, quoi qu'il en coûte, même sur son opinion, parce que dans son pays, on va y revenir aussi, c'est un coût.
Le galon est plus cher. Il a un moyen qu'il n'a pas encore utilisé.
Mais est-ce qu'il fait ce pari-là? Quitte à ce que ça coûte, que finalement le pari risqué là aussi de nouvelles frappes risquées, incerteuses.
Ces délais ne sont pas les nôtres. Lui, il a un délai qui est alors qui aurait dû être le 30 avril, mais il a mis 4 jours à signaler qu'il était plus ou moins en guerre. Et là, il a en cessé le feu, donc il pourrait même dire qu'il n'est plus en guerre. Mais il doit aller au Congrès le 2 mai, donc dans 3 jours.
Absolument, samedi prochain.
Voilà, samedi prochain pour dire bon bah on est plus ou moins en guerre, ou alors il va argumenter qu'il n'est pas en guerre. Le Congrès va avoir 30 jours pour trouver un moyen de ne pas discuter de la question avec un blocage des républicains, même s'il y a des divisions sur la question de la guerre avec les républicains.
Parce que les élus lui demandent des comptes, là,
oui,
aussi.
Oui, certains.
Certains.
Un petit nombre. Le 14 mai, il va voir le président Xi Jinping. Ça a déjà été reporté une fois, ça va être difficile de le reporter une deuxième fois. Il fait monter la pression un peu partout, à Panama, à Malacca et un peu partout, en disant « J'ai les moyens, tu as les terres rares, mais moi j'ai le reste ». Donc attention, parce que je contrôle. Il y a huit détroits et deux canaux. Je dis pas canaux parce que Suez et Panama c'est pas Venise. Et donc j'en contrôle la quasi-totalité. Donc il va bien falloir qu'on se mette d'accord parce que moi j'ai compris le rapport de force. Et donc mon rapport de force et ton rapport de force sur les terres rares, il va falloir qu'on s'équilibre. Et puis il a un troisième problème qui est le 250e anniversaire de la création des États-Unis, où il a impérativement besoin d'annoncer une victoire qui n'est pas seulement l'annonce de la victoire par Donald Trump, car de toute façon il sera victorieux puisque ce sont les règles de Donald Trump.
Quoi qu'il se passe, il l'a déjà annoncé,
voilà,
cette victoire d'ailleurs. Devant le roi Charles, par exemple, en visite.
Mais là, il va falloir l'argumenter un peu plus. Il va falloir une victoire sur un plateau, quelque part, pour justifier l'arc de triomphe et le nouveau passeport à sa gloire. Et là, il va avoir besoin de quelque chose. Donc, il a des dates qui ne sont pas les mid-termes. Les mid-termes, c'est dans très longtemps.
Les élections de mi-mandat. Mais Alain Bauer, vous avez l'air de minimiser le fait que, en effet, certains élus démocrate, son opposition, mais pas que aussi, son propre camp lui demande un peu des comptes. Je le disais, il y a ses auditions devant le Congrès, Pete Hegseth hier par exemple, et des chiffres qui donnent un peu le tournis quand même. L'audition qui portait officiellement sur la demande de cet exécutif américain d'augmenter de 42% le budget américain de la défense,
le prochain
absolument, et le porter à 1500 milliards de dollars. Ce sont ces chiffres qui sont mentionnés. Est-ce que ça, l'opinion américaine dit OK? peut suivre le président.
Sans aucun problème.
Sans aucun problème, selon vous.
Le prix de la guerre aux États-Unis n'est pas un sujet. La manière dont l'argent est dépensé en est un, mais c'est pas la même chose. Donc, non, faut pas surestimer la qualité de l'opposition démocrate qui a montré son incapacité à faire quoi que ce soit pour empêcher Donald Trump de sa réélection. Quand même un sujet en tant que tel, pour les cours de sciences politiques, ça va rester dans les livres de comment un retour pareil a été possible jusqu'à aujourd'hui. Non, la vraie question sur Donald Trump, c'est l'écart entre « je ne ferai plus jamais de guerre » et cette guerre, mais c'est pas sur le prix qu'il faut, l'argent ou le budget qu'il faut donner au Pentagone. Il n'y a pas de débat.
Parce que c'est un pays qui a toujours vanté, et on le sait, ses vétérans, à quel point on les vénère, c'est une culture.
Moi, pendant la guerre du Vietnam, comme vous savez, c'était une grande crise culturelle et quasiment psychiatrique aux États-Unis, l'absence de gestion des vétérans. Là, on est plus dans le profil du guerrier, le retour du guerrier. Et d'ailleurs, c'est toute l'architecture de la pensée MAGA trumpienne, c'est Make America Great Again, ça veut dire un empire. C'est le retour de l'empire. Il est hémisphérique. Il y a d'un côté eux, de l'autre côté les Chinois, et nous au milieu, c'est la zone de prédation.
Mais comme ici et comme dans notre pays, des sondages, des enquêtes d'opinion sont faites, 68% des Américains désapprouvent, dont 52% très fortement, la gestion de l'inflation et du coût de la vie par Trump. Ça aussi, c'est une réalité politique pour lui. C'est le prix du gallon. Avec lequel il doit aussi gérer et rendre des comptes.
Mais il considère que justement, pour en sortir, il faut remettre une pièce dans la machine et pas faire retraite, puisqu'il ne fait jamais retraite. Donc il faut qu'il trouve une voie parallèle de sortie. La voie parallèle, c'est soit j'ai gagné parce que les Iraniens seront bien obligés de me donner quelque chose, et pour cela j'ai besoin du blocus, en tout cas de barrage filtrant qui n'est pas un vrai blocus, parce que j'ai besoin d'un accord pour que les Chinois fassent pression sur les Iraniens, parce que je gère avec les Russes pour qu'ils fassent pression sur les Iraniens pour revenir grosso modo à l'accord de Vienne en moins bien probablement, mais en tout cas je pourrais dire que j'ai gagné, parce que ensuite j'ai aussi besoin de faire des frappes ciblées si vraiment les Iraniens n'ont pas tout compris, parce que il y a eu un coup d'État en Iran, ça n'est plus une monarchie, les mollahs ne sont plus au pouvoir, c'est un petit cercle qui s'appelle le cercle Habib, qui sont des anciens combattants de la guerre Iran-Irak, qui contrôle et truste l'intégralité des postes exécutifs du pouvoir iranien.
Des frappes ciblées à Alain Bauer, parce qu'aussi il y a cette question de l'uranium enrichi, qui, selon, alors parole contre parole, mais vraisemblablement le stock d'uranium n'a pas été du tout touché par ces frappes américano-israéliennes, qu'il est toujours en état, sans doute, et que, pour le coup, c'est une partie de l'échec aussi américain à cette heure.
Alors d'abord, il n'y en a pas 440 kg, il y en a 10 tonnes.
10 tonnes d'uranium.
De 2% à soi-disant 60%, voire plus. Donc, premièrement, il y a un sujet plus large qu'on imagine. Il y a ce qui est toléré, moins de 10%, qui peut aller pour des raisons médicales, de recherche, etc. Et puis, il y a le reste. Voilà, le reste, c'est l'écart entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Même l'AIEA a un peu de mal, l'Agence internationale de l'énergie, à savoir exactement où on en est, puisqu'elle n'y est plus depuis déjà plusieurs années. Et deuxièmement, on ne sait pas où est cet uranium. On pense que peut-être une partie serait à Ispahan. Peut-être. On découvre,
connaissait
4 sites, 3 ont été bombardés. La montagne de la Pioche n'a jamais été, parce que c'est imbombardable. C'est un vrai sujet tellement la roche granitique empêche tout effet réel de. Et puis on a découvert un 5e site inattendu, Minjidai, au nord-est de Téhéran, où il y avait à la fois des centrifugeuses et de quoi commencer à réfléchir à fabriquer une ogive nucléaire. C'est-à-dire qu'on est plus au seuil, comme cela a été pensé avant, on est dans la préparation éventuelle de construction.
Et ça, le renseignement américain et israélien l'ont senti.
C'est pour ça qu'ils ont bombardé Minjidai, pour dire on sait où c'est, on sait ce que vous avez fait, et donc il y a poker menteur avec Donald Trump, échec menteur avec les Iraniens, tout le monde ment. Mais le renseignement fait à peu près bien son travail. Après, ce sont des décisions stratégiques ou tactiques. Une guerre, c'est une stratégie. On sait où on va à la fin et c'est des changements tactiques toutes les 3 minutes. Parce que c'est comme ça, la
D'autant
guerre.
D'autant plus avec Donald Trump. Un dernier mot, Alain Bauer. On arrive vraiment dans les dernières secondes. Exercice Orion 26. Oui. Le président français est attendu aujourd'hui pour la préparation des armées face à un conflit de haute intensité. Quand on dit que ce n'est pas notre guerre, il n'y a pas un message un peu contradictoire ou c'est complémentaire de votre point de vue?
Ce n'est pas encore notre guerre et par ailleurs le vrai problème n'est plus la haute intensité mais la longue intensité, la dronisation, la miniaturisation, là où on a des start-up absolument performantes et une incapacité à rattraper notre retard stratégique malheureusement, mais tout le monde fait des efforts, on va peut-être y arriver un jour. En tout cas, l'armée de terre l'a fait, l'armée de l'air commence à le refaire. On est vraiment dans un travail considérable mais avec un retard tout aussi considérable. Les dividendes de la fait c'est bien, mais si tu veux la paix, prépare la guerre.
Alain Bauer, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre Trump, le pouvoir des mots. Merci beaucoup. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci beaucoup Marie Chantré, c'était le face-à-face dans quelques toutes petites secondes. C'est Face à Canteloup sur RMC, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
C'est Face à Canteloup sur RMC tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et Alain Bauer était l'invité du face-à-face ce matin. Il est resté avec nous. Rebonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Et Nicolas Sarkozy voulait réagir à cette interview.
Bravo la régie, très drôle, très malin. C'est pas très gentil, monsieur Meillard, ça vous ressemble pas. Enfin bref, je me permets de saluer amicalement Alain Bauer, parce que peut-être que vous le sachiez pas, mais j'ai souvent fait appel à Alain pour me conseiller, comme c'est un grand criminel, c'est un grand, tout le monde le sait, un grand criminel. C'est un spécialiste des conseils sur quoi qu'il faut faire pour pas se faire gauler quand on est coupable d'avoir rien fait. Donc je suis pile dans la cible. En tout cas, voilà, Alain Bauer, faut le dire. C'est vraiment un grand crimologue.
Ah oui, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet d'ailleurs.
Oui, alors ça, l'auteur d'ouvrage, ça c'est le mauvais côté d'Alain Bauer. Mais oui, parce que monsieur, je sors un livre tous les 15 jours, c'est un concurrent direct pour moi, ça m'impacte dans mes ventes, j'arrive pas à suivre, moi, son rythme. Puis faut, moi, parce que moi, il faut que j'ai l'inspiration. Et moi, je la trouve où, l'inspiration? Je la trouve en prison. Et ça tombe mal, parce que, innocent comme je suis, comment que je fais? Je vais quand même pas tuer quelqu'un, vendre de la drogue ou violer Gisèle Pellico. Tout ça pour écrire mon volume 2 du journal d'un prisonnier.
Merci monsieur Nicolas Sarkozy.
Je sens que Gilles Pellico, c'est pas possible.
Alain Bauer est toujours avec nous. Alain Bauer, l'attaque contre Donald Trump le week-end dernier était-elle inévitable?
Pas du tout. Cette attaque était même à l'évidence préméditée. Et j'en parle d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit 2 heures après l'attaque, dont j'ai bien sûr adressé un exemplaire au garde du corps de monsieur Trump. Ce qui s'intitule « La protection rapprochée pour les nuls ».
Alain Bauer, l'Iran et les États-Unis vont bien finir par trouver un terrain d'entente.
Pas du tout. Et d'ailleurs, vous le sauriez si vous aviez lu le livre que j'ai sorti avant-hier, le 23e depuis le début de l'année, et qui s'intitule « Géopolitique du Moyen-Orient, moustache qui frise et sourire en coin ».
En attendant, le détroit d'Hormuz reste bloqué.
Pas du tout. C'est une illusion d'optique. Le détroit d'Hormuz n'est pas bloqué. D'ailleurs, je ne comprends pas que les plus grands experts puissent se tromper à ce point alors qu'il s'agit tout au plus d'un barrage filtrant. Et il y a des navires qui passent. Je l'explique d'ailleurs dans mon livre qui est sorti hier et que j'écrirai dès la semaine prochaine, qui s'intitule « Le détroit d'Hormuz pour les buses ».
Non mais les Français s'inquiètent pour leurs vacances d'été. On peut raisonnablement penser que d'ici là, tout sera calmé.
Pas du tout. Je pense au contraire qu'on va vers un blocage total et durable. Mais ça n'empêchera pas néanmoins les Français de partir en vacances. Alors certes, c'est mon conseil, pas sur les plages iraniennes. J'en parle d'ailleurs dans mon nouveau livre qui sortira pour l'été, qui s'intitule « Géopolitique et bikini », mais sans recette minceur.
Merci Alain Bauer de nous avoir éclairé. Grâce à vous, on en sait un peu plus.
Pas du tout. Tout le plaisir était pour moi. Monsieur Béliard, j'étais ravi de venir vous contredire.
Eh bien, merci Alain Bauer. Et tout de suite, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, bonjour Mathieu. Mathieu, le dauphin qui, en l'absence de la reine Apolline, règne sur cette matinale jusqu'à demain, avant de regagner la ville si chère à son cœur et à celle de François Mitterrand, Château-Chignon.
Je l'ai.
Oh, celle-là, elle est un petit peu tirée par les cheveux. Je suis tellement en forme, je rajoute. Allez, c'est parti pour les titres. Après l'annonce d'une hausse de plus de 50% de ses bénéfices, Total Energy est accusé de bâtir sur le dos des Français un véritable empire. Et on appellera ça l'empire d'essence.
Oui.
J'attends 2 secondes que Thibaut Texer les comprenne. Ouais. Et puis on vient d'apprendre, avec la hausse des prix du gaz au 1er mai, le tarif des crémations pourrait fortement augmenter. Alors, est-ce que ça va faire comme dans les stations-service? Je pose la question. Est-ce que les gens vont se ruer dans les crématoriums pour échapper à la hausse des prix? Pas sûr.
Merci Stéphane. Le président américain est avec nous. Bonjour Monsieur Trump.
Hey, salut Bayard. Elle est où, Pauline? Elle est où? Elle est pas là, Pauline. Et le bonheur, il est où? Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Ah oui, et c'est une chanson de saison, puisque demain, on est le premier Mahé.
Vous connaissez Alain Bauer?
Oui, Bauer, il est géopolitologue. Il est expertologue, criminologue, mais moi j'aurais préféré qu'il soit Kylie Minogue. Mais Bauer, c'est un good guy, good guy. Il a les bonnes analyses, il me connaît bien, il sait qu'il parle parfaitement le Donald Trump en troisième langue. Et il dit toujours, et ça j'aime bien ça, Bauer, il dit toujours que je suis pas fou. Comme Walt Disney, Donald, il n'est pas dingo.
Merci, Monsieur Trump. Face à la hausse du prix du kérosène, les compagnies aériennes commencent à annuler des vols pour cet été et les Français s'inquiètent pour leurs vacances. Le président de la SNCF, Jean Castex, est avec nous.
Pas d'inquiétude, inutile. Je suis là pour rassurer les Français. Pas de stress, il y a Castex. Pourquoi vouloir s'envoler pour Djerba ou Mykonos quand Charleville-Mézières est à portée de wagon? Mallorque, Mallorque, c'est surfait, les Baléares. Laissez-vous tenter par Vierzon. Beauvais, c'est bon, Beauvais. En tout cas, grâce à SNCF, les Français, je m'y engage, partiront en vacances. Voilà. Et en tout cas, le trajet aller sera assuré. Le retour, ça, c'est pas gagné.
Ah, ça promet.
Ah, mais attendez, nous allons quand même publier pour les usagers un guide pour les aider à passer de bonnes vacances grâce à SNCF. Le guide du retard.
Non, le guide du routard.
Non, le guide du retard. Avec des conseils pratiques.
Ah oui. Hein,
des exercices de yoga, de méditation pour accepter un petit retard de quelques heures. Hein, des exercices de cohérence cardiaque pour ne pas monter en tension quand on voit marqué « train annulé ». Et même des méthodes pour apprendre à dormir assis quand un train est arrêté, bloqué toute une nuit en raison d'un sanglier dépressif qui s'est jeté sur les voies. Hein, vous voyez quand SNCF, vos vacances s'annoncent inoubliables. Bon, écoutez, je m'arrête là parce que j'entends, je vois, oui, le train des grandes gueules va bientôt partir, comme d'habitude. Le cheminot Truchot est un RTT, et le chef de gare avec sa petite casquette et son sifflet, Marshall, est en train de s'impatienter.
Merci beaucoup. Merci Nicolas. Face à Cantelou, qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Dans un instant, les grandes gueules, vous l'avez compris. Bonjour Alain Marchal, quel est le programme?
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Les grandes gueules vous attendent en direct dans un instant sur RMC et RMC Story. Charles Consigny, l'avocat, sera là, tout comme Flora Gebali, la militante écologiste, et Laura Varton-Martinez, la sophrologue. On va évoquer bien sûr la crise des carburants. Total qui décide de maintenir, vous savez, la ristourne dans ses prix à la pompe. Plutôt que la taxe, est-ce que finalement c'est pas la meilleure solution, cette ristourne ou ces prix capés? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Nous sommes à la veille du 1er mai, on va essayer de comprendre qui pourra ouvrir et qui restera fermé. Et puis nous recevrons le député de l'Essonne, Jérôme Guedj, pour évoquer la situation à gauche. Ils sont nombreux sur la ligne de départ de l'élection présidentielle. Il y a même les anciens, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, l'ancien président de la République François Hollande. Enfin, ils s'y préparent, ils y songent. Est-ce que c'est vraiment bon tout ça, bon pour le pays? Voilà, vous venez commenter tout ça avec les grandes gueules. À tout de suite en direct de 9h à midi.